Géopolitique,
Chantal Loureau.
Bonjour et bienvenue dans Géopolitique. Le 2 juillet dernier à Bamako était lancé officiellement en présence d'Emmanuel Macron le G5 Sahel, une force conjointe appuyée par la France, composée de quelques 5000 hommes, issus de 5 pays de la région, Mali, Niger, Mauritanie, Tchad et Burkina Faso. 5 pays parmi les plus pauvres de la planète, confrontés au terrorisme islamiste et déstabilisés par les trafics en tout genre, armes, drogues, migrants. Comment va fonctionner ce G5 Sahel? Est-ce que cet outil peut changer la donne sécuritaire alors que les attaques terroristes semblent se multiplier? Qui va financer cette nouvelle force? A-t-elle les moyens de ses ambitions? Est-ce un premier pas vers un désengagement de l'armée française à pied d'œuvre au Sahel depuis janvier 2013? Même s'ils en ont très envie, les Africains sont-ils prêts à prendre en charge leur sécurité? Pour en débattre, trois invités en duplex de Montpellier, grâce à nos confrères de France Bleu Hérault, André Bourgeot, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes anthropologue, directeur de recherche émérite au CNRS et au laboratoire d'anthropologie sociale. Au téléphone depuis l'île de Bréa en Bretagne, Serge Mikhailov, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes chercheur à l'IRIS, l'Institut de Relations Internationales et Stratégiques, et vous avez publié en 2015 Afghanistan chez Fayard. Et à mes côtés en studio, Francis Patindé, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes journaliste, spécialiste de l'Afrique et maître de conférences à Sciences Po Paris. Florence Parly, la ministre française des armées, s'est rendue cette semaine au Tchad, au Niger et au Mali. Elle y a répété la conviction déjà affichée le 2 juillet par Emmanuel Macron. C'est le G5 Sahel qui trouvera les solutions aux problèmes de la région. Est-ce que vous y croyez ou pas, André Bourgeot?
Oui, bon, il y a déjà un antécédent qui s'est réalisé à travers le comité d'état-major opérationnel conjoint qui était à Tamaracet et qui a brillé par son absence d'action et d'activité. Donc au niveau du principe, je crois que le principe est bon que de vouloir s'appuyer sur les armées nationales concernées. Reste quand même un certain nombre de problèmes, notamment deux ou trois problèmes. Le premier problème, c'est les conditions de réalisation de cette opération. Le deuxième problème, c'est son financement. Et enfin, le troisième problème, c'est sa conception. Est-ce qu'une conception essentiellement de type militaire et sécuritaire est suffisante pour engager une lutte contre les groupes armés salafistes djihadistes?
Serge Mikhailov, le G5 Sahel, c'est une force qui sera efficace ou pas, selon vous?
Disons que c'est un plus au plan militaire. Sachant que l'aspect militaire de ce problème n'est qu'une des facettes d'une affaire extrêmement complexe et extrêmement compliquée. Sur le plan militaire, on voit bien que les forces des Nations Unies ne sont pas du tout organisées, structurées pour répondre à ce type de menace. La MINUSMA au Mali, une dizaine de milliers d'hommes, ça coûte $1 milliard par an, et actuellement elle est pratiquement enterrée dans ses zones d'intervention. Elle perd des hommes régulièrement toutes les semaines, tous les mois, donc c'est pas la solution. Quant aux armées nationales, et en particulier l'armée nationale malienne, on voit bien que le problème du népotisme, le problème de son inefficacité se pose très sérieusement. Donc l'idée des militaires français, c'est de constituer une force qui double la force Barkhane et qui, si elle est financée, permettrait d'être formée correctement, d'être équipée correctement et serait susceptible donc de démultiplier l'action de Barkhane. Mais encore une fois, cette question-là ne règle pas les problèmes de pauvreté, de stagnation agricole, de chômage des jeunes, d'insécurité, d'absence de justice, les problèmes d'explosion démographique du Sahel. Donc on ne traite que les aspects militaires, sachant qu'on ne tuera jamais assez rapidement les djihadistes pour qu'on réponde à la constitution, je dirais à la fabrication de djihadistes permanente par suite du baril de poudre qui constitue ces régions.
Francis Patindé, qu'est-ce que la mise sur pied du G5 Sahel va changer du point de vue militaire? On reste pour l'instant au point de vue militaire.
Moi, je pense que le projet pose problème. D'abord par son manque de clarté, y compris dans son acte de naissance. Les cinq pays qui sont partis au G5 Sahel ne sont pas les propriétaires du Sahel. Il y a des pays qui manquent, par exemple. Il y a l'Algérie, il y a un peu le Sénégal, il y a également des pays comme la Libye, et qui manquent à cet élément. Alors, on peut se demander, est-ce qu'on n'a pas besoin de le Nigeria, par exemple, qui a une partie sahélienne? Et pourquoi ces pays-là manquent à l'appel? On a l'impression d'un face-à-face entre la France et cinq de ses anciennes colonies. L'autre problème qui se pose, c'est le positionnement exact de cette force conjointe. Est-ce que c'est une force d'appoint à Barkhane? Est-ce que c'est une future force de substitution à Barkhane? Est-ce que, par exemple, c'est un appendice, un corps expéditionnel multinational de la MINUSMA, la mission des Nations Unies, et comme l'a dit Serge Mikhaïlov tout à l'heure, qui est complètement terré dans ces cantonnements?
Serge Mikhaïlov, cette force mobile va avoir la particularité de pouvoir sauter les frontières et poursuivre donc les terroristes ou les trafiquants, donc sans tenir compte des frontières. Ça, c'est un plus quand même par rapport à ce qui se passe aujourd'hui.
C'est un plus, moi, ce qui me paraît surtout un plus, c'est que c'est une force qui sera, je dirais, entraînée, formée, équipée par la France et par l'Allemagne, et qui aura donc une efficacité supérieure à celle des armées nationales ou à celle des forces des Nations Unies. Donc sur ce plan purement militaire, si du moins elle est financée correctement, et là j'ai quand même un fort doute, eh bien c'est un plus au plan militaire, sachant par contre que les armées des différents pays concernés représentent en général quelques milliers d'hommes simplement. Je parle de la partie entraînée, équipée et capable de combattre. Eh bien, comment sera constituée cette force du G5? Est-ce que c'est par prélèvement sur les faibles forces équipées, entraînées des différents pays, ou est-ce qu'on va recruter 5000 hommes, les former, etc., auquel cas ça va demander plusieurs années avant que cette force représente une capacité d'action significative. Donc là, il y a un problème de vase communicant. Est-ce qu'on va vider les armées de leurs éléments les plus efficaces, ou est-ce qu'on va constituer une force armée différente?
André Bourgeot, comment pourrait se passer la coordination entre les trois forces présentes donc dans la région, donc cette nouvelle force interafricaine, la MINUSMA, donc la force onusienne, et évidemment les Français de l'opération Barkhane?
Vous soulevez là un problème de coordination. Au vu de ce qui se passe depuis 2012-2013, on voit bien qu'il y a une absence de coordination entre les forces de l'ONU incarnées par la MINUSMA et puis l'opération militaire Barkhane, qui sont confrontées les deux à des problèmes de salafisme djihadiste, aux conditions d'application des accords de paix qui a des difficultés à s'appliquer depuis 2 ans. Mais ce que je voudrais souligner, c'est que cette initiative du G5 Sahel a s'inscrit dans un contexte beaucoup plus large, qui est celui d'un régionalisme sécuritaire, puisqu'il y a déjà ce type d'initiative dans le bassin du lac Tchad et le golfe de Guinée au sein du G5 Sahel. Puis par ailleurs, l'entité sécuritaire du Tako Gourma, qui regroupe 3 États, à savoir le Niger, le Burkina Faso et le Mali. Donc c'est un élargissement concret dans ces propositions de cette régionalisation sécuritaire. La question que je me pose toujours face à ça, c'est qu'elle est essentiellement militaire et sécuritaire, et que cette approche, on l'a vu depuis 2013-2014, n'a pas réussi ni à entraver d'une manière systématique et à forcerie n'a pas pu éradiquer ces forces salafistes djihadistes transnationales qui se combinent aussi avec une criminalité organisée. Donc la question que je me pose, est-ce qu'à un moment donné, il faut aussi réfléchir comment combiner la participation des populations locales, pas nécessairement et surtout pas par la délation, mais il y a des organisations de type villageoise, etc., qui peuvent aider aussi à cette initiative militaire. Le problème majeur qui se pose, de mon point de vue, c'est que si on n'a pas des données extrêmement concrètes et fines sur les conditions de radicalisation, sur les conditions de recrutement, sur les conditions d'endoctrinement au niveau local, on risque encore de dépenser beaucoup d'argent sur une démarche essentiellement militaire. C'est la raison pour laquelle je suis un peu sceptique face à cette initiative.
Alors justement, vous parliez du bilan sécuritaire depuis 2013-2014. Serge Mikhaïlov, 4 ans après l'intervention militaire française au Mali, qui avait pour but au départ, on le rappelle, d'empêcher les djihadistes de prendre Bamako, où en est la situation sécuritaire dans la région? Est-ce que ça va mieux ou pas?
Eh bien, écoutez, en tout cas, au niveau du Mali, la situation se dégrade, puisque les problèmes de sécurité ne se posent pas seulement dans le nord du pays, les régions de Kidal, etc. Mais maintenant, les problèmes de sécurité se posent au centre et au sud du pays, en particulier avec l'émergence de nouveaux groupes djihadistes Peul. Je pense au Front de Libération du Massina. Et on voit, je dirais, une dégradation de la situation sécuritaire dans tout le pays, finalement, qui est liée à l'érosion du pouvoir de l'État, l'absence de l'État, la présence des djihadistes djihadistes qui n'ont plus, je dirais, un positionnement offensif un peu excessif qu'ils avaient pris en 2012-2013, mais qui maintenant s'insèrent dans les villages, conduisent leurs actions de propagande religieuse et également leurs petites actions sociales qui leur permettent d'être appréciés des villageois et puis finalement de convaincre les uns les autres. Et puis ils assassinent un certain nombre d'opposants irréductibles. Ils font disparaître la présence administrative de l'État parce que, évidemment, que ce soit la gendarmerie, les enseignants, etc., se replient lorsque l'insécurité est trop présente. Donc il va falloir, dans des pays comme le Mali, mais c'est également vrai de la plupart des autres pays, non pas seulement traiter la question sur un plan militaire, mais reconstruire tout l'appareil régalien. Par appareil régalien, c'est d'abord la gendarmerie, la police, le système judiciaire qui est complètement absent de la plupart de ces régions rurales. Donc il va falloir en fait conduire des actions de reconstruction des États, ceci dans 5 pays qui sont extrêmement fragiles, et la dimension militaire n'est qu'une des facettes du problème.
Francis Patiendé, vous êtes d'accord avec le constat plutôt sombre de Serge Mikhaïlov ?
Oui, c'est vrai que moi je reviens du Mali et que la situation se dégrade, qu'il faut faire très très attention. Ce que j'aurais dit, c'est que la force conjointe, elle est chargée en fait, si j'ai bien compris, de surveiller les zones transfrontalières avec un droit de suite de 50 km à l'intérieur du pays voisin. Mais se posera le problème des troupes, parce que les 5 pays membres du G5 Sahel sont déjà contributeurs en troupes pour la MINUSMA. Et le président Mahamadou Issoufou, le président du Niger, a proposé que ce soit et que la force conjointe soit un prolongement, un appendice ou bien une brigade de la MINUSMA, parce qu'il se posera le problème des troupes. Ces pays n'ont pas les moyens de donner des troupes, surtout d'élite, des gens bien formés, ad vitam, ils en ont déjà sur d'autres théâtres d'opération, y compris au Mali, ils ne pourront pas fournir des troupes.
Donc ça veut dire qu'il faudrait changer le mandat de la MINUSMA aussi.
Il faudra peut-être penser à changer le mandat de la MINUSMA, et la France a été bien inspirée de proposer que cette force conjointe, l'ONU apporte son soutien, le Conseil de sécurité et tout, parce qu'il se posera également le problème de financement dont nous parlerons tout à l'heure.
Le problème des forces onusiennes, c'est qu'elles sont en général assez réticentes à réagir sur le terrain à ce qui se passe. Elles observent beaucoup, elles sont là pour, en principe pour assurer la sécurité, mais la capacité d'intervention vraiment...
Le mandat de la MINUSMA n'excède pas les frontières du Mali actuellement, parce que c'est une mission.
Donc ça, c'est le premier problème.
C'est le premier problème qui se pose, donc on a besoin. Et l'idée de la force conjointe, c'est de surveiller les zones transnationales communes à ces 5 pays où opéreraient les forces djihadistes.
Mais ça veut dire aussi qu'il ne faut pas être seulement une force d'interposition.
Il faut se défendre, il faut attaquer. Le G5, ça a un secrétariat, ça a un état-major, avec un chef d'état-major, le général Dako, donc qui est malien. Il y a des structures d'intelligence, donc de collecte de données, d'informations. C'est quand même quelque chose de plus structuré qui va au-delà d'une force militaire.
Serge Mikhaïlov, le fait qu'il existe désormais une coalition des mouvements islamistes au Mali, le groupe de soutien à l'islam et aux musulmans, c'est son nom, dirigé par le Touareg malien Iyad Agrali, qui a renouvelé son allégeance à Al-Qaïda. Est-ce que c'est inquiétant ? Est-ce que ça veut dire que les djihadistes sont plus forts et mieux organisés aujourd'hui ?
Disons qu'il y a une part de propagande dans tout cela, parce que je pense que la coordination entre les différents groupes doit être quand même assez lâche, assez fluide. Mais au-delà de la dimension, je dirais, affirmation, propagande, etc., il y a un véritable problème qui est quand même l'expansion générale du salafisme dans toute cette région, qui, mélangée à une très grande pauvreté et une absence de perspective pour les jeunes, représente, je dirais, une perspective pour les plus jeunes, pour les plus faibles. Et c'est un véritable problème auquel les responsables politiques n'osent pas trop s'attaquer. Parce qu'il va falloir combattre non seulement sur le plan sécuritaire, mais sur le plan idéologique ces différents groupes. Et cela, je dirais qu'il y a une grande complicité latente des autorités religieuses et même souvent des responsables politiques qui n'osent pas s'attaquer au salafisme. Moi, ce qui me frappe, c'est les progrès faits par le salafisme dans les zones rurales, en particulier du Niger, du Mali. C'est quelque chose qui est allé beaucoup plus vite qu'on imaginait il y a 25-30 ans.
André Bourgeot, vous êtes anthropologue. Comment vous expliquez, vous, cet essor du salafisme dans cette région d'Afrique ?
Oui, il y a plusieurs raisons. Une des raisons fondamentales est le fait que le septentrion malien, puisqu'il s'agit du Mali, était une zone de non-droit dans laquelle l'État malien brillait par son absence. L'opération militaire Serval, sollicitée par le président par intérim, le professeur Dioncounda, et légitimée par une décision de l'ONU, a enrayé la descente de ces groupes salafistes djihadistes sur le sud, mais n'a pas du tout contribué à au fait de les éradiquer. Il y a eu une prolifération de différents groupes. Ce qui me paraît important pour prolonger la question précédente, le problème de la poursuite de 50 km à l'intérieur des nations pose fondamentalement le problème de l'utilité de la gestion des frontières. Comment l'armée malienne pourra-t-elle gérer 1400 km de frontières communes avec l'Algérie? Il faut des armées, bien sûr, extrêmement fortes pour cet aspect. Donc c'est quand même quelque chose d'extrêmement important. La deuxième chose, c'est la restructuration du salafisme politique en salafisme djihadiste, avec une restructuration. Autrefois, c'était ACMI, qui était dirigé par des leaders algériens. Actuellement, avec la réunification de ce groupe, je ne pense pas qu'on puisse le traduire par groupe de soutien à l'islam. Je pense plutôt que c'est un groupe pour la victoire.
C'est son nom, c'est le nom qu'il s'est donné.
S'il vous plaît, il y a deux versions, il y a deux traductions de cette appellation arabe. Ah. C'est aussi le groupe pour la victoire de l'islam et des fidèles. Donc, je ne veux pas faire de la mauvaise sémantique, mais ce n'est pas du tout la même chose qu'un groupe de soutien à l'islam. C'est pour la victoire de l'islam. Donc, se repose le problème des conditions d'application de la charia et des possibilités de négociation avec Iyad Agrali. La deuxième chose que je voudrais dire, c'est que ce salafisme djihadiste qui est fondamentalement transnational, je dis bien transnational, et qui se combine avec une criminalité organisée, est maintenant sous la direction, sous l'autorité d'un autochtone et d'un national. C'est plus du tout les Algériens qui contrôlent les choses. Et la troisième chose que je voudrais dire, c'est que cette réunification, ce regroupement, n'est pas du tout contradictoire avec la continuité de pratiques autonomes des différentes composantes de ce groupe-là. Et c'est ce qui fait justement leur force.
Il faut rappeler que le groupe donc de Iyad Agrali est composé de Ansar Eddin, du Mujao et d'ACMI, Al-Qaïda au Maghreb islamique. Est-ce que l'EI est en arrière-plan? Est-ce qu'il faut aussi redouter une présence ou une incursion du groupe État islamique maintenant au Sahel? André,
oui, il y a une présence de l'État islamique, mais je ne pense pas qu'on puisse réduire Al-Qaïda à une opposition entre Al-Qaïda et l'État islamique, même si le problème existe. Al-Qaïda a une autre dimension actuellement que l'État islamique. Et l'État islamique, il se caractérise surtout au Nigeria avec Boko Haram qui a fait allégeance à l'État islamique. Pour en revenir à la bande plus saharo-sahélienne, Al-Sahraoui représente effectivement une force, mais ce serait tout à fait réducteur de penser que la restructuration d'Al-Qaïda s'est faite par rapport à l'État islamique. Je pense qu'il y a une réorientation stratégique, ce qui n'est pas du tout la même chose, et que dans cette réorientation stratégique transnationale, et effectivement, intervient le problème de l'État islamique dans un contexte où, effectivement, l'État islamique en Syrie est fortement diminué et qu'il y a peut-être un danger d'arriver d'étrangers, cette fois-ci, en provenance du Moyen-Orient, qui viennent renforcer la composante djihadiste incarnée par l'État islamique.
Francis Patindé, quelles sont les arrière-pensées d'Iyad Agrali? Est-ce qu'il, en montant cette coalition des mouvements djihadistes, est-ce qu'il veut peser dans une négociation future pour jouer un rôle politique?
C'est pas exclu. Sur ce point, il y a des positions. La position française, il est exclu qu'on discute avec Iyad Agrali. Et alors qu'il est au Mali, beaucoup d'officiels et même des religieux sont pour négocier, discuter avec lui, puisque c'est un Malien après tout. Et d'ailleurs, pour votre information, actuellement il y a l'imam Diko qui est à Kidal. Il est à Kidal, soi-disant, pour voir les différentes forces en présence, les mouvements rebelles. Qu'on appelle ex-rebelles. Et puis, en même temps, selon certaines informations, il essaierait de prendre langue avec Iyad Agrali.
Et en même temps, Emmanuel Macron dit qu'il faut parler avec tout le monde. Donc,
Sauf Iyad. S'il a du sang sur les mains, en tout cas, c'est ce que disent les officiels français en tout cas.
Oui, mais Bachar el-Assad aussi a du sang sur les mains. Et finalement, maintenant, on ne pose plus comme préalable son départ du pouvoir pour parvenir à un
Bachar el-Assad est dans un palais et il y a des... on ne sait où.
Au fin fond du désert.
Oui, peut-être.
On va marquer une pause, le temps d'un nouveau journal sur RFI. On se retrouve dans 10 minutes avec Serge Mikhailov, André Bourgeot et Francis Patindé.
Géopolitique.
Chantal Leroux.
On continue à débattre du G5 Sahel, cette nouvelle force interafricaine désormais sur les rails avec André Bourgeot, directeur de recherche émérite au CNRS, Serge Mikhailov, chercheur à l'IRIS et Francis Patindé, maître de conférence à Sciences Po Paris. On en vient au financement de ce G5 Sahel. À Bamako, Emmanuel Macron a promis 8 millions d'euros d'ici fin 2017 sous forme de matériel. L'Union européenne s'est engagée, elle, à verser 50 millions d'euros. Chacun des 5 pays donnera 10 millions d'euros. Mais le président malien Ibeka évalue à 423 millions d'euros l'argent nécessaire au fonctionnement de ce G5 Sahel. Serge Mikhailov, on est très loin du compte.
Alors on est très loin du compte et je pense qu'il faut revenir sur quelques éléments budgétaires. Il faut d'abord se rendre compte que les 5 pays en question ont des économies extrêmement faibles et qu'ils ont à contrôler des surfaces qui sont absolument gigantesques. Je n'ai pas fait le calcul exactement, mais ça leur représentait facilement 8 à 10 fois la surface de la France, la surface des pays du G5 Sahel. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on demande à des pays, à des États qui sont tout petits en termes de capacité financière de surveiller des zones qui sont absolument gigantesques. Ce n'est pas possible. Il va falloir d'une façon ou d'une autre que le coût de la surveillance de toutes ces zones-là, le coût de la sécurité dans cette région qui est absolument gigantesque, soit assumé par, je dirais, les puissances régionales. Alors les puissances régionales, il y a évidemment le Nigeria, mais on voit le Nigeria a beaucoup de difficultés à assumer sa propre défense. Il y a l'Algérie qui reste quand même assez largement sur ce plan-là aux abonnés absents. Et puis, il y a l'Union européenne. Donc il va falloir que l'Union européenne, qui est directement concernée par la sécurité dans cette région, accepte de financer l'essentiel des dépenses de sécurité de cette zone immense. Juste un chiffre, les dépenses de sécurité de la plupart de ces pays dépassent maintenant 6 à 7% de leur richesse nationale. Je rappelle qu'en France, c'est 2%. Donc on voit bien que ces pays sont dans une impasse financière, budgétaire et sécuritaire. Donc pour sortir de là, il va falloir que l'Union européenne, je dirais, prennent la mesure de l'ampleur du problème et acceptent sérieusement de mettre la main à la poche. On ne peut pas se contenter des 50 millions qui ont été promis dans le cadre du G5.
Je reviens à la situation sécuritaire. Terrorisme plus insécurité, ça donne encore plus de candidats au départ, donc encore plus de migrants. Et ça, c'est un problème que les Européens n'arrivent pas à gérer, Serge Mikhailov.
Si les choses continuent à se dégrader, en particulier au Mali, si on va vers une insécurité généralisée qui risque de bloquer l'économie rurale, là on aura effectivement une accélération des mouvements migratoires qui seront d'abord orientés vers la France. Pourquoi? Parce qu'on a des diasporas maliennes très très importantes. Tout le monde connaît l'importance de Montreuil au niveau des communautés maliennes en France. Donc sur ce plan-là, évidemment, il y a un risque d'accélération des phénomènes. Pas à très court terme, mais du moins si on raisonne sur une décennie, les risques sont tout à fait significatifs.
Francis Patindé, est-ce que le problème, ce n'est pas aussi que tous les pays européens n'ont pas la même perception de la menace djihadiste?
Je pense il y a des pays qui n'ont jamais été vraiment frappés ou ni toucher directement. Il y a également des pays européens qui pensent que, ils veulent pas trop se mêler de ce face-à-face qu'ils trouvent parfois glauque entre la France et certaines de ses anciennes colonies. Il faut dire les choses telles qu'elles sont.
Et c'était la position de l'Allemagne jusqu'à très récemment.
Jusqu'à très récemment. Mais je vous fais remarquer quand même qu'il y a une conférence des donateurs qui est prévue au mois de septembre, voilà, à Berlin, en Allemagne. Même si, bon, l'Allemagne va avec des élections au mois de septembre, je crois, et que c'est un pays qui se hâte lentement pour sortir des sous, pour signer des chèques. Et je voudrais également, au niveau du budget, quand même signaler le fait de mettre de côté les organisations régionales africaines et même l'Union africaine. Par exemple, la CEDEAO, elle est écarté ce dossier, et la CEAC, donc, qui s'occupe des pays d'Afrique centrale également. On aurait pu également les associer plus étroitement à cette problématique-là, et ce qui fait que Addis Abeba, aujourd'hui, comme Abuja, sont devenus des capitales diplomatiques incontournables. Or, dans le jeu du G5 Sahel, ces capitales se sentent écartées.
Serge Mikhaïlov, le président Macron a promis de faire passer la part de l'aide au développement française dans le PIB de 0,38 à 0,55%. Est-ce que c'est une bonne chose selon vous? Ou est-ce que ça dépend de ce qu'on va en faire?
Écoutez, d'abord, cet indicateur ne correspond à rien du tout. C'est un indicateur qui est dénoncé par la plupart des économistes qui se penchent sur ces questions, parce qu'on met des choux, des carottes et des navets dans cette soupe qui vise à 0,5 ou 0,7% du PIB. Il faut voir ce qu'on fait de cette aide, à quoi elle est destinée et comment on la gère. Moi, je vais vous donner quand même un exemple qui est assez inquiétant. Il y a eu en octobre 2015 une conférence de donateurs à Paris pour le Mali. Et quand on fait le bilan des engagements qui ont été pris à ce moment-là, il y a eu 3,4 milliards de dollars de promis. Au Mali, on s'aperçoit que, alors que 80% pratiquement de la population malienne vit du monde rural, de l'activité agricole ou rurale au sens large, moins de 4% de cette aide allait à l'appui au développement rural. Donc on voit bien qu'on est complètement à côté de la plaque. Ce qui est important, c'est évidemment les volumes ne sont pas négligeables, mais c'est qu'est-ce qu'on en fait, à quoi on l'affecte. Quand on affecte 4% de l'aide au Mali au développement agricole, on est complètement en dehors du sujet. Donc c'est ça qui est important. Quant aux promesses, si vous voulez, du président Macron, bah, très bien. Mais ce que je vois, c'est qu'aujourd'hui, l'aide au Sahel, qui est une aide qui doit se faire, vu la pauvreté de ces pays sous forme de subventions, elle représente moins de 1% de l'aide publique au développement française globale. Donc on est complètement en dehors des clous. Donc là, il faut revenir à la réalité, il faut changer de braquet, et il faut se dire que l'aide sous forme de dons aux pays du Sahel doit redevenir une priorité et ne pas être, en fin de compte, au niveau des arbitrages budgétaires français, que la dernière roue d'une charrette bien misérable.
André Bourgeot, quand l'Agence française de développement s'apprête à financer pour 200 millions d'euros sur 5 ans des petits projets dans le nord et le centre du Mali et dans le Liptako-Gourma, hein, cette zone frontalière Mali-Burkina-Niger, l'initiative s'appelle Tiwara et elle fait partie aussi du G5 Sahel. Est-ce que ça va dans le bon sens selon vous?
Le problème du développement ne peut pas se poser indépendamment des conditions de sécurité. Pour qu'il y ait développement, il faut qu'il y ait sécurité. Or, la sécurité est loin d'être rétablie. Donc, est-ce que c'est pas simplement que des formes de déclaration d'intention et des difficultés d'application? Je crois qu'on peut pas dissocier effectivement la sécurité du développement. L'absence de développement génère l'insécurité. Mais pour qu'il y ait développement, il faut que la sécurité soit rétablie. Or, si on prend l'exemple de l'espace saharo-sahélien, tous ces pays-là seront confrontés à des problèmes d'insécurité. Mais je voudrais prolonger la question que vous posiez tout à l'heure. Pourquoi ces cinq pays du G5 Sahel? Je crois qu'il faut établir une relation entre ces cinq pays du G5 Sahel et l'opération militaire Barkhane. Je crois me souvenir que le ministre de la Défense de l'époque, Monsieur Le Drian, avait fait référence à l'opération sécuritaire du Liptako-Gourma qui concerne d'ailleurs toujours le Mali, le Niger et le Burkina Faso. Il avait bien précisé qu'il fallait aller dans ce sens parce que Barkhane n'est pas appelé à se pérenniser. Donc la question qu'on peut se poser avec l'opération G5 Sahel, est-ce que ça ne va pas conduire d'une manière très progressive, très lente, très régulière, au retrait de l'opération Barkhane, tout comme la présence militaire française en RCA s'est retirée? Il y a des problèmes de budgétaires, il y a des problèmes d'austérité. Donc est-ce que le budget français et la politique française a encore les capacités financières d'assurer des présences de militaires français à l'étranger? Si on prend l'exemple de la politique de Monsieur Trump sur le Moyen-Orient, il a été très clair au moment de sa campagne présidentielle en disant que non, le budget américain ne pourrait pas aller dans le sens de la défense des pays du Moyen-Orient, que c'était à eux de se prendre en charge pour assurer leur sécurité. J'observe et je constate que la politique du président Macron est à peu près la même, c'est-à-dire qu'il fait appel aux forces nationales pour assurer leur propre sécurité.
Francis Patindé, vous êtes d'accord avec ce que vient de dire André Bourgeot?
Oui, bien sûr. De toute façon, la sécurité des Africains doit être assurée en premier lieu par les Africains. Encore faudrait-il que les troupes soient bien formées, que ça se passe dans un cadre démocratique. Et en cela, le G5 Sahel, c'est une bonne chose. C'est une organisation qui a un secrétariat général, qui a un chef d'état-major, qui a des structures. Hein. Mais bon, il faut trouver le financement et c'est pas la sécurité, c'est pas la priorité de ces États en ce moment, parce qu'il y a d'autres. Il y a la pauvreté, dont parlait Serge Mikhailov tout à l'heure. Il y a des problèmes de scolarité, l'éducation nationale qui va à volo. Vous savez, le djihadisme ou le salafisme dont on parlait tout à l'heure, c'est dans les têtes, c'est pas qu'au nord du Mali. C'est dans les têtes, c'est pour les gens qui vont en Afrique depuis une trentaine d'années, on a vu les changements. Vous voyez, c'est dans les tenues vestimentaires, c'est dans les propos, c'est dans les comportements de tous les jours. Et ça aussi, il faut faire attention, parce que ça peut, c'est un terreau fertile pour ce qui peut se passer actuellement au nord du Mali.
Serge Mikhailov, vous vouliez intervenir.
Regardez, je dirais, l'aide publique française au développement, on l'annonce autour de 8,5 à 9 milliards d'euros. L'effort budgétaire pour financer cette aide publique au développement, c'est de l'ordre de 2,5, 2,7 milliards d'euros. Et nous, on va donner 40 millions par an au Sahel. Enfin, où sont les priorités? On se trompe complètement. Là, c'est Bercy qui tire les ficelles pour dépenser le moins possible et éviter de faire les choix douloureux d'arbitrage entre continuer à financer tel type d'aide qui ne sert pas à grand-chose, mais qui permet de nourrir un certain nombre de dépendants et de bénéficiaires historiques, ou bien véritablement affecter nos ressources d'aide au Sahel, sérieusement.
Mais en même temps se pose le problème de la corruption, Francis Patindé. Elle est présente évidemment dans la gestion des États africains et des États du Sahel en particulier, mais elle est aussi présente au sein des armées. On a vu l'armée nigériane revendre des armes à Boko Haram, et on se demande aussi quels sont les liens entre certains militaires maliens et des mouvements djihadistes. Qu'est-ce que vous en pensez?
Ce qu'il faut savoir, on cite souvent les armées ou des franges d'armées de militaires qui sont corrompues, c'est vrai, ça existe, mais il y a l'armée ghanéenne par exemple, un comportement, j'ai vu l'armée ghanéenne au Mali, mais également au Libéria, des théâtres d'opération qui se comportent plutôt bien. L'armée sénégalaise aussi a une plutôt bonne réputation, depuis la Finul au Liban jusqu'au Congo. Donc il y a certes, surtout des hauts gradés qui sont corrompus. Vous savez, le coup d'État en Côte d'Ivoire en 1999, en fait, la révolte des militaires, en fait, c'est parce qu'ils n'avaient pas été payés. Ceux qui avaient été envoyés en mission en Centrafrique n'avaient pas perçu leur dîme parce que les officiers avaient détourné l'argent. Et donc, ça peut, mais je crois pas que tous les militaires ou tous les officiers africains soient corrompus.
André Bourgeot, comment les militaires peuvent-ils lutter contre des djihadistes qui donnent, par exemple, 100 000 francs CFA, c'est-à-dire 152 euros à quelqu'un pour poser une bombe dans un pays, le Mali, où le salaire moyen est de 32 000 francs CFA seulement?
Oui, c'est un problème réel. C'est-à-dire que les groupes armés salafistes djihadistes ont des capacités financières, des aussi des capacités humanitaires. Je crois que c'est quelque chose qui n'est pas à négliger. Les contributions de nature humanitaire par les groupes salafistes djihadistes, c'est extrêmement important dans les localités. Donc ça repose aussi le problème du développement. Quand vous allez faire un projet de développement, lorsque là, c'est sécurité sera rétablie, quels seront les salaires qui seront proposés à aux acteurs du développement? Des salaires qui n'ont rien à voir avec les capacités financières de ces groupes salafistes djihadistes qui sont énormes. Et c'est la raison pour laquelle j'insiste peut-être un peu trop sur les relations quasiment organique entre le salafisme djihadiste et la criminalité organisée. On ne peut pas faire l'économie aussi d'une analyse fine du rôle de la drogue, et plus particulièrement de la cocaïne et du cannabis. Il y a un quartier qui porte le nom de quartier cocaïne à Gao, qui est quand même aussi très révélateur. Donc vous voyez, c'est une compétition qui repose sur des inégalités de capacité énormes. C'est une des raisons pour lesquelles, encore une fois, l'approche du G5 Sahel, qui est une approche de type institutionnel, multilatéral, etc., ne pourra déboucher sur quelque chose de concret que s'il y a une volonté politique de la part des États de s'appuyer sur les populations locales. Il fut un temps où on parlait beaucoup des relations entre le local et l'international et le global. Actuellement, on parle du global, mais très peu du local. Ça veut dire que s'il n'y a pas des études fines qui sont faites sur les structures, les systèmes politiques des sociétés concernées, qui, elles, ont un impact très très fort sur le plan théologique, idéologique et politique sur leur population à eux. Ce sont des gens qui sont connus, qui sont écoutés par les populations. S'il n'y a pas ce type d'action qui est faite pour des analyses fines concernant les conditions de radicalisation locale, je dis bien locale, les conditions d'endoctrinement, c'est un facteur, l'endoctrinement, qui n'est pas négligeable. J'ai fait traduire les prêches de Koufa, et croyez-moi, c'est quelque chose d'extrêmement intéressant. Et des conditions aussi sur le recrutement. Si ces armées-là n'ont pas connaissance l'absence de tous ces éléments-là, je crains fort que l'approche essentiellement, voire exclusivement militaire et sécuritaire ne soit pas particulièrement positive.
Serge Mikhaïlov, vous avez appelé votre livre « Africanistan » à référence à l'Afghanistan. Quelles sont les erreurs commises en Afghanistan à ne pas répéter au Sahel, selon vous ?
En Afghanistan, la première erreur a été de ne pas s'intéresser à la reconstruction d'un État, à la construction d'un État afghan. Et à rapporter, je dirais, à financer pour cela tout l'appareil régalien de l'Afghanistan. Les Américains sont occupés de financer l'armée afghane et de la développer à partir de 2009-2010, c'est-à-dire beaucoup trop tard, et ils ne se sont jamais vraiment sentis concernés par le développement de la police afghane qui est restée une mafia parmi d'autres. Donc ça, c'est une première erreur. La deuxième erreur, c'est que ce sont des étrangers qui ont combattu des djihadistes et combattu des talibans qui étaient en fin de compte très largement des pachtounes locaux. Et donc très vite, les armées étrangères ont été perçues comme des armées d'occupation. Et c'est un combat pour l'indépendance des différentes tribus, des différentes vallées et du pays qui s'est développé contre les armées de l'OTAN qui étaient présentes là-dedans. Alors en matière d'aide au développement, je vous passe un peu les détails, mais il y a eu une bonne dizaine d'erreurs majeures commises. La première étant une absence totale de coordination sérieuse des efforts, une absence de pilotage stratégique de l'aide. Je vous disais qu'on recommence ces erreurs au Mali. Je vous disais tout à l'heure que 3,7%, 4% de l'aide au Mali était destinée en 2015 au développement rural. Ben, c'est un chiffre qu'on retrouve malheureusement en Afghanistan, où à l'époque également, le développement de l'agriculture afghane aurait dû faire partie des priorités et ne pas être complètement oublié de cette façon. Donc vous voyez, il y a énormément de choses, énormément d'erreurs qu'il faut analyser et qu'il faut éviter de reproduire au Sahel. Et malheureusement, je les vois reproduites tant par les développeurs que par les militaires. Moi, je pense que les soldats français, tôt ou tard, vont poser, la présence des soldats français au Mali va poser un problème politique très très sérieux. Je pense que malgré l'attention et les précautions que prennent les militaires français, il y aura nécessairement des bavures qui seront, je dirais, réinterprétées et manipulées par les groupes djihadistes, et que tôt ou tard, nous aurons un véritable problème politique de maintien de soldats français dans cette zone-là. Ça explique également le recours à des soldats africains d'une force multinationale, mais il va falloir que les nationaux prennent en charge leur défense, et il va falloir pour cela financer les armées nationales, les polices nationales, l'administration territoriale nationale. Il faut que l'extérieur mette la main à la poche pour financer tous ces efforts-là, faute de quoi nous sommes partis pour un Afghanistan sahélien.
Francis Patindé, vous qui connaissez bien le terrain, vous étiez donc au Mali le 2 juillet. Est-ce que la perception de l'armée française a changé depuis 2013 ? On se souvient de François Hollande accueilli en libérateur au Mali. Est-ce qu'aujourd'hui, les militaires français sont davantage perçus comme une force d'occupation ?
Il y a eu des pics, des moments où effectivement les gens se sont révoltés contre le comportement des soldats français. Moi, sincèrement, je trouve ça injuste parce que bon, c'est les gens qui sont allés. Il a fallu que cette intervention pour que les djihadistes étaient capables de prendre jusqu'à Bamako. Hein, faut pas se leurrer. Ils font ce qu'ils peuvent avec les moyens de bord. Et bon, le tout, c'est maintenant de former l'armée malienne. Et pour qu'elle puisse assurer, parce que le Mali, il y a des résolutions des Nations Unies, l'État a un pouvoir régalien sur l'ensemble du territoire, normalement, théoriquement, et la France est là juste pour aider. Et à mon sens, je pense que Barkhane va se retirer. La France n'a pas vocation à aller défendre, à faire le gendarme. C'est aux États africains qui sont indépendants depuis 57 ans d'assurer la sécurité de leur pays et de leurs nationaux.
Merci beaucoup à tous les trois d'avoir été nos invités et merci à France Bleu Héros d'avoir permis ce duplex de Montpellier avec vous. André Bourgeot, anthropologue et directeur de recherche émérite au CNRS. Serge Mikhaïlov, chercheur à l'IRIS. Je rappelle à nos auditeurs que vous avez publié en 2015 Afghanistan chez Fayard. Et merci à vous, Francis Patindé, maître de conférence à Sciences Po, d'avoir été à mes côtés en studio. Merci à Véronique Durand et Marjorie Bertin qui m'ont aidé à préparer cette émission et à Victor Hull qui l'a réalisé. Le prochain numéro de Géopolitique, ce sera samedi. Marie-France Chatin et ses invités débattront de la place de la France dans la stratégie de Daesh. Moi, je vous retrouverai dimanche pour parler de l'avenir de Hong Kong à l'occasion du 20e anniversaire de la rétrocession de l'île à la Chine. Bonne semaine à tous.